أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Vendredi dernier, j'ai évoqué la destruction de trois grandes idoles. Voici des détails supplémentaires à ce propos. Une expédition dirigée par Saad bin Zayd Ashali a été envoyée vers Manat au cours du mois du Ramadan, lors de la 8e année de l'Hégire. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait donc envoyé Saad bin Zayd le 24 Ramadan pour démolir l'idole nommée Manat. Cette idole était installée près de Koudaïda, à Mushallal, sur la côte de la mer Rouge. C'est pour cette raison qu'on nomme également cette saria la Saria Mushallal. Saad bin Zayd Ashali est parti avec 20 cavaliers. Quand il est arrivé sur place, il a trouvé là-bas un gardien. Le gardien a demandé à Saad ce qu'il voulait. Saad a répondu que « je souhaite abattre Manat ». Le gardien lui a demandé « toi faire cela, cela est impossible, tu ne peux pas le faire ». Saad s'est approché de l'idole. Le narrateur raconte, mais maintenant on ne sait pas si c'est la réalité ou non, parce que parfois, ils embellissent ces récits pour donner de l'effet. Ils rapportent qu'à ce moment-là, une femme noire, nue, aux cheveux ébouriffés, est sortie de la pièce, et le gardien a dit à son idole, « Oh Manat, envoie ta colère. » Saad bin Ashali a tué ce gardien. Si ce récit du meurtre est vrai, il est possible que le gardien ait tenté de résister et ait été tué lors de la confrontation. Tué uniquement pour avoir proféré une malédiction, ce n'est pas là un enseignement de l'islam et cela ne semble pas juste également. C'est également contraire aux directives générales du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, Saad et ses compagnons se sont tournés vers l'idole et l'ont brisée. Ensuite, il s'est présenté avec ses compagnons au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hisham rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Sufyan bin Harb vers Manat. On rapporte également que c'est Ali qui accomplit cette tâche. Cependant, selon le récit de Waqidi et de Ibn Sa'd, l'opinion dominante est que c'est Saad bin Zayd qui a démoli cette idole. Et si le reste du récit est également de Waqidi, il se peut qu'il ait ajouté certains détails supplémentaires. Voici le récit de l'expédition de Khalid bin Walid vers Nakhla. Cette saria a eu lieu au cours du mois du Ramadan, le 25 du Ramadan, de la 8e année de l'Hégire, en janvier 629 de l'ère chrétienne. Le 25 Ramadan, le saint prophète Mohammed Bissos lui a envoyé un détachement de 30 hommes sous le commandement de Khalid bin Walid vers Nakhla Le but de cette expédition était de détruire une idole bien connue des Quraychites, idole nommée Rozza. Nakhla est une vallée située à l'est de la Mecque, à une journée de distance vers l'est entre la Mecque et Taïf. À Nakhla, il y avait une maison dont la garde était assurée par les Banu Shayban. Ils étaient les alliés des Banu Hashim. Al-Uzza était la plus grande idole des Quraychites. L'imam Bayhiki a rapporté que son sanctuaire était constitué de 3 arbres d'acacia, c'est-à-dire qu'il y avait des acacias tout autour, et la maison était au milieu. Ibn Ishaq rapporte que lorsque le gardien d'Al-Uzza apprit l'arrivée de Khalid, il accrocha une épée à l'idole et grimpa lui-même sur la montagne. Et il se mit à réciter ce poème dont la traduction est la suivante. « Oh, Uzza lance sur Khalid une attaque si violente qu'il ne reste rien. Porte le voile de guerre et relève tes manches. Oh, Uzza, si tu ne tues pas cet homme, Khalid, eh bien, rends-le digne d'un péché imminent ou venge-toi de lui. » Dès son arrivée à Nakhla, Khalid a coupé les acacias et il a démoli la maison qui contenait l'idole Uzza. Ensuite, il est retourné à la Mecque pour présenter son rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, lui demanda: « As-tu vu quelque chose de particulier là-bas ?» Khalid répondit par la négative. Sur ce, le Saint-Prophète a déclaré que « Tu n'as pas détruit Uzza, retourne-y et extirpe-la complètement. » À l'annonce de cet ordre, Khalid fit immédiatement demi-tour pour exécuter cet ordre. Lorsque les gardiens revirent Khalid, ils grimpèrent sur la montagne en disant « Oh Uzza, détruis-les. » De ce temple idolâtre, une femme noire aux cheveux ébouriffés est sortie de nouveau. Il est probable qu'il y avait aussi des femmes là-bas. En ces instants, Khalid récitait ces vers. « Oh Uzza, il disait « Oh Uzza, je te renie, je ne proclame pas ta pureté. J'ai vu qu'Allah t'a déshonoré. » Il a dit: « Uzza, je te renie, je ne proclame pas ta pureté, et j'ai vu qu'Allah t'a déshonoré. » Ensuite, il est retourné et il a présenté ce récit au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a déclaré: « Oui, ceci est Uzza, et elle a désespéré du fait qu'il n'y aurait plus d'adoration pour elle dans vos villes. » On trouve également mention de l'expédition d'Amr bin al-As vers Souwa. Cette expédition a également eu lieu au cours du mois du Ramadan de la 8e année de l'Hégire. Simultanément à la mission de la destruction de l'idole Uzza, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a envoyé Amr bin al-As pour anéantir l'idole nommée Souwa. Amr bin al-As était accompagné de quelques compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui, mais leur nombre n'a pas été mentionné. Souwa était l'idole des Banu Hudayl à Ruhat, sur la côte de la mer à l'ouest de Médine. Et cet endroit se trouvait à 3 000 de la Mecque. Il y avait là-bas la statue qui avait la forme d'une femme et les gens la vénéraient et en faisaient le tour. Ses gardiens étaient les Banu Lahyan, une branche des Hudayl. Le Saint-Coran mentionne certaines idoles par leur nom, y compris cette idole. Ainsi, il est dit dans la sourate Nour: « Wa qalu la tadharunna alihatakum. » ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Et ils ont dit: n'abandonnez jamais vos dieux n'abandonnait jamais Wad, ni Souwa, ni Yaroth, ni Yaouk, ni Nasr. Ibn Abbas rapporte que les idoles adorées par le peuple de Noé furent adoptées par les Arabes. Et l'idole Wad était celle de la tribu Kalb. Cette idole était installée à Dumatul Jandal. L'idole Souwa était celle de la tribu Houdair et Yaruth était celle de la tribu Murat. Ensuite, cette idole a été adoptée par les Banu Rotaif qui vivaient à Djurf près de la ville de Saba. Yaouk était l'idole de la tribu Hamdan et l'idole Nasr était l'idole des Himyr, les descendants des Zilqara. En réalité, ce sont les noms de quelques hommes pieux de la nation de Noé. Après leur décès, Satan inspira au cœur de leur peuple d'ériger des idoles aux endroits où ils avaient l'habitude de s'asseoir et de donner à ces idoles les noms de ces personnes. Ils en firent ainsi et on adorait ces idoles. Ils n'adoraient pas ces hommes. Mais quand ces hommes moururent et que les informations originales disparurent, on commença à adorer leurs statues, leurs idoles, ou à fabriquer leurs modèles et à les adorer en leur donnant ces noms. Lorsque Amr bin al-As arriva au lieu dit Rohad près de Souwa, il y trouva son gardien. Il lui dit qu'il était venu briser cette idole sur l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le gardien répondit que tu ne serais absolument pas capable de la briser. Quand il lui a demandé la raison, le gardien a répondu « On vous empêchera certainement. » Il a dit « Malheur à toi, est-ce que cette idole peut entendre ou voir ?» Ensuite, Amr s'est avancé et l'a brisée, et il a dit à ses compagnons de démolir aussi la cellule construite à ses côtés, et ils l'ont démolie. Ensuite, il a demandé à ce gardien, « Maintenant, dis-moi. » Sur ce, en voyant l'état de sa divinité, bien le gardien s'est exclamé aussitôt, « J'obéis à Allah et j'embrasse l'islam. » Cela confirme également que l'histoire antérieure concernant le meurtre du gardien ou de quelqu'un d'autre est sujette à caution. Voici le récit de l'expédition de Khalid bin Walid vers les Banu Jazima. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Shawwal de la 8e année de l'Hégire. Après la conquête de la Mecque, lorsque Khalid bin Walid est revenu après avoir détruit l'idole Al-Uzza, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé vers les Banu Jazima, une branche de la tribu Banu Kinana. Cette tribu était établie tout près de Yalamlam en direction de la Mecque. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Khalid, invite cette tribu à l'islam. Et il a également dit qu'il ne fallait pas les combattre. Ceci était toujours l'instruction fondamentale du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il ne faut jamais l'oublier, notamment qu'il ne faut pas combattre. Khalid bin Walid est parti avec 350 hommes de parmi les Muhajirin et les Ansar et les Banu Sulaym. Khalid bin Walid est arrivé sur place et là-bas, il a vu que les gens étaient armés et qu'ils étaient prêts à lancer des attaques. Khalid leur a dit de déposer les armes, car les gens avaient déjà embrassé l'islam. En entendant ces paroles de Khalid, un homme parmi sa tribu nommé Hajdam s'est levé. Il s'est adressé à sa tribu en disant « Ô Banu Jazima, ne déposez pas les armes. » Il s'agit de Khalid. Après avoir déposé vos armes, vous serez confrontés à l'arrestation et à la mort. C'est pourquoi moi, je ne vais pas déposer mes armes. Les autres ont tenté de faire comprendre à Hajdam en lui disant « Pourquoi es-tu déterminé à faire verser notre sang ? Dépose tes armes. » Et les gens ont continué à le persuader jusqu'à ce qu'il lui prenne ses armes. Après avoir jeté leurs armes, ces gens ont été faits prisonniers. Ceci a été rapporté et chaque musulman a reçu un ou deux prisonniers et ils sont restés en captivité toute la nuit. Peut-être qu'ils ont été emprisonnés parce qu'ils avaient pris les armes et qu'on ne connaissait pas leur intention. Quoi qu'il en soit, selon un récit, lorsque Khalid est arrivé sur les lieux et les a invités à se convertir à l'islam, ils ont dit « Aslamna, nous avons embrassé l'islam ». Au lieu de dire « Aslamna », c'est-à-dire « nous nous sommes soumis », ils ont commencé à dire « Sabana, Sabana », c'est-à-dire « nous avons apostasié notre religion d'antan, nous avons abandonné notre ancienne religion ». Khalid a alors eu la mauvaise impression qu'ils n'étaient pas des musulmans. Il a donc émis un décret pour les tuer. Ceci est l'interprétation qui est avancée. Ibn Sa'd a rapporté que lorsque Khalid est arrivé auprès d'eux, il leur a demandé aux gens à quelle religion il appartenait. Ils ont répondu qu'ils étaient musulmans et qu'ils priaient. Khalid a demandé « Eh bien, pourquoi avez-vous pris vos armes ?» Ils ont répondu que « Nous avons une inimitié ancienne avec une tribu arabe. Nous craignons que ce ne soit cette tribu ennemie. C'est pour cette raison que nous avons pris nos armes. » Il semble que Khalid était prudent face à cette situation et qu'il avait des doutes dans son esprit concernant ces gens, si l'on doit présenter une justification à cet acte de Khalid. En tout cas, quoi qu'il en soit, les récits indiquent que ces prisonniers priaient et semblent être des musulmans, mais il est fort possible que certains de ces prisonniers étaient comme Hajdam lui-même et ceux qui l'approuvaient, et que ces gens faisaient preuve de rébellion. Cependant, Khalid n'était pas rassuré par eux, et leur cri « Sabana, Sabana » l'a alerté. C'est pourquoi, à la fin de la nuit, il a émis le décret stipulant que l'exécution de ces prisonniers semblait être la solution appropriée. Certains musulmans ont tué leurs prisonniers, mais le groupe des Muhajirin et des Ansar, les anciens musulmans, n'a pas approuvé l'avis de Khalid et les Muhajirin et les Ansar n'ont pas tué leurs prisonniers. Abu Usaid Saidi, le chef des Ansar, est parti voir Khalid bin Walid et lui a dit que c'était des musulmans et qu'il n'était pas juste de les tuer. Abdullah bin Omar, Salim, Maula Abu Hudhaifa, n'étaient pas non plus d'accord avec l'opinion de Khalid, et ils ont empêché leurs compagnons respectifs de tuer leurs prisonniers. L'un de ces prisonniers libérés est arrivé à Médine, et il a exposé la situation au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète a demandé si personne n'avait contredit ou arrêté Khalid. Le prisonnier a répondu qu'il y avait un homme au teint clair et de taille moyenne et il y avait un homme de grande taille et que tous deux avaient parlé à Khalid et l'un d'eux avait parlé d'un ton un peu vif. Omar était présent à cette assemblée. Il a dit au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, l'un d'entre eux était mon fils Abdullah. » c'est-à-dire Abdullah bin Omar, celui qui était de grande taille, et le deuxième était Salem, Maula Abu Hudhaifa. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed lui a appris à propos de cette situation, il était très peiné. Il a dit « Je n'ai pas ordonné à Khalid de les tuer, je lui ai tout simplement dit de les inviter à l'islam. » Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed lui a levé ses deux mains et il a invoqué deux fois Allah en disant « Ô Allah, je désavoue devant toi ce qu'a fait Khalid. » De même, il a exprimé son mécontentement envers Khalid bin Walid pour avoir agi ainsi, pour avoir agi si vite et avec précipitation. Khalid aurait dû enquêter correctement. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed lui a envoyé Ali vers les Banu Duzaïma pour payer le prix du sang pour leurs victimes et pour enquêter sur toute l'affaire. Sur ce, Ali est parti là-bas, il a versé le prix du sang à tous les héritiers des personnes tuées, et il leur a restitué tous leurs biens que les musulmans avaient pris. Même le récipient en bois dans lequel un chien buvait a été rendu. Après avoir versé toutes les sommes dues, il restait de l'argent à Ali. Il a demandé alors aux gens des Banu Duzaïma s'il restait une personne dont le préjudice n'avait pas été réparé. Tous ont répondu que non. Sur ce, Ali a distribué le reste des biens à ces mêmes personnes et il a dit « Je donne ces biens au nom du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par précaution, afin de réparer tout dommage éventuel que ni le messager d'Allah ne connaît, ni vous ne connaissez. Ensuite, Ali est retourné et il a présenté un rapport complet au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également rapporté que même leur moindre objet leur avait été restitué et que le reste des biens leur avait été également retourné. Sur ce, le saint prophète, peace be upon him, était très heureux. Il a dit à Ali, « Tu as bien fait, tu as bien agi et c'était excellent. » Avant cet événement, le saint prophète Mohammed peace be upon him avait également fait un rêve. Ce rêve est mentionné dans Sira ibn Hisham. Le saint prophète peace be upon him a dit, « J'ai rêvé que je mangeais du haïs, un plat composé de dattes, de fromage et de ghee. J'en ai pris une bouchée et je l'ai trouvé délicieux, mais quand je l'ai avalé, une partie est restée coincée dans ma gorge. » Sur ce, Ali a tendu sa main et l'a fait sortir. Abu Bakr a interprété ce rêve en disant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Il s'agit en fait d'un détachement que vous allez envoyer. Certaines choses vont vous plaire et d'autres seront discutables et vont vous déplaire. Ensuite, vous allez envoyer Ali et il va faciliter les choses, c'est-à-dire qu'il va régler la situation. » Ainsi, ce rêve s'est réalisé à travers les événements de cette expédition. Se référant à l'explication du Sahih al-Bukhari, Sayyid Zainul Abidin Walilullah Shah Sahib, une figure bien connue de la Jamaat, qui a également écrit une explication du Sahih al-Bukhari, écrit après avoir analysé tout cela, que les Tabaqat ibn Sa'd et la Sira ibn Hisham mentionnent toutes deux cette mission. Après la conquête de la Mecque, le saint prophète, peace be upon him, a envoyé des détachements dans différentes régions afin d'évaluer la volonté des tribus de se convertir à l'islam. Leur but était d'évaluer leur volonté de se convertir à l'islam et non pas les forcer à devenir musulmans. Par conséquent, l'envoi de Khalid bin Walid au Banu Jazima s'inscrivait également dans ce but. Tabaqat ibn Sa'd déclare explicitement cela en ces termes. Il est dit, Ba'athahu ila Bani Jazima, Daryan ila l'islam, walam yab'athu muqatila. C'est-à-dire que le saint prophète peace be upon him lui a envoyé Khalid bin Walid chez les Banu Jazima, une tribu des Banu Kinana, en Shawwal de la 8e année de l'Hégire avec 350 Muhajirin et Ansar. Cette tribu était installée tout près de Lielamlam, près de la Mecque, et ils ont été envoyés là-bas, non pas pour combattre ces gens, mais pour prêcher le message de l'islam. Cette tribu était attirée par l'islam. Cette expédition est également connue sous le nom de Yamul Rumaysa. Rumaysa fait référence à l'eau qui sort d'une source. Il y avait un endroit dans le désert, près de la Mecque, un endroit où vivaient les Banu Jazima. Abdullah bin Omar, le narrateur de ce récit, était présent lors de cette expédition. Son récit est concis. Ibn Ishaq a relaté les détails de l'événement, révélant qu'une partie spécifique des Banu Jazima avait refusé de se convertir à l'islam, tandis que la plupart étaient déjà musulmans. Ceux qui ont nié l'islam se sont armés et ils ont commencé à se battre, ce qui a conduit Khalid bin Walid à les affronter. Après leur défaite, ils ont été faits prisonniers. Parmi eux, certains se voyant encerclés ont commencé à exprimer leur islam avec les mots « Sabarna, Sabarna ». Sabarna signifie que nous sommes devenus sabéens, c'est-à-dire que nous avons changé de religion. À la Mecque, on se moquait du saint prophète Mohammed peace be upon him en l'appelant sabéen ou sabi, et les gens étaient incités à détester ce mot en disant qu'il avait changé de religion. Quoi qu'il en soit, ceux qui se battaient n'ont pas exprimé clairement et sincèrement leur conversion à l'islam. Ils se sont mis plutôt à utiliser le terme « sabana », une phrase par laquelle ils cherchaient à se protéger d'être tués au combat, mais ils n'ont pas réussi. Abdullah bin Omar a rapporté qu'il n'avait pas tué ses prisonniers suite au message de Khalid bin Walid. Il a mentionné cet incident au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi le saint prophète Mohammed peace be upon him a levé ses mains vers le ciel et il a exprimé son désaveu et sa colère envers Khalid bin Walid. Selon Ibn Ishaq et Ibn Sa'd, des guerriers des tribus Banu Sulaym et Mudlij étaient également inclus parmi les combattants. Et à l'instar des Banu Juzima, ils appartenaient à une branche des Banu Kinana. Ils avaient déjà subi des pertes face aux Juzima lors d'une bataille précédente. Lorsque les Banu Juzima ont vu les Banu Sulaym et les Banu Mujlid avec l'armée des combattants de l'islam, ils se sont armés pour les affronter. Khalid leur a dit que les gens sont devenus musulmans, pourquoi donc livrer bataille, déposer vos armes? Comme mentionné précédemment, le chef Hajdam leur a conseillé de ne pas se rendre sous peine d'être tués ou d'être emprisonnés. Certains membres de la tribu l'en ont empêché et ont déclaré pourquoi provoquer un bain de sang. Les gens se sont convertis à l'islam. D'après le récit d'Ibn Hisham, il s'agissait également d'une question de vengeance pour certains massacres entre les tribus Banu Kinana. C'est pourquoi certains se sont battus et ont été tués et ont été faits prisonniers. Il semble que des guerriers de la tribu des Banu Sulaym, se basant sur une fatwa de Khalid bin Walid, aient tué certains de leurs prisonniers dans le cadre d'une ancienne vengeance, considérant leur profession d'islam comme de l'hypocrisie. Cependant, les Muhajirin et les Ansar n'ont pas accepté cette fatwa de Khalid. Et ils ont libéré leurs prisonniers après qu'ils aient professé l'islam en prononçant les mots susmentionnés. Et ils les ont libérés au lieu de les tuer. La fatwa du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est claire. Le récit rapporté par Abdullah bin Omar montre également que l'ordre de tuer les prisonniers ne venait pas de Khalid bin Walid. C'était plutôt une fatwa avec laquelle la majorité des compagnons n'étaient pas d'accord. Si c'était un ordre, tout le monde l'aurait suivi et personne ne s'y serait opposé. Mais Khalid a commis une erreur en émettant cette fatwa pour certaines raisons et le saint prophète Mohammed lui a été profondément affecté par cette erreur de Khalid et il a envoyé Ali pour rectifier la situation. Il s'est rendu sur place et il a payé le prix du sang pour chaque enfant jusqu'à verser le prix du sang même pour les chiens de ceux dont les chiens ont été tués. Ceci est rapporté par la Sira d'Ibn Hisham. En plus du prix du sang obligatoire, il leur a offert une somme d'argent supplémentaire. L'imam Bakir a également mentionné que Ali a réparé les dommages. Que Khalid bin Walid ait commencé à les tuer ou à les faire prisonniers lors de la bataille ne signifiait pas qu'il commençait à les tuer même après qu'ils aient déposé les armes. Parmi les récits qu'Ibn Sa'd a transmis à ce sujet, il y a le récit d'Ibn Ishaq concernant Ibn Abi Hadrad Aslami. Il était présent lors de cette expédition. Le récit d'Ibn Sa'd montre que certains ont combattu et il est également mentionné que Khalid, voyant les Banu Juzima armés, il leur a demandé que « Pourquoi est-ce que vous portez ces armes ?» Ils ont répondu qu'il y avait une ancienne inimitié entre nous et certaines tribus arabes et nous avions peur que vous soyez de ces gens-là. C'est pourquoi nous nous sommes armés. Khalid bin Walid a ordonné qu'ils soient faits prisonniers. Leurs bras ont été liés et ils ont été répartis parmi ses compagnons. L'imam Ibn Hajar a rapporté cette référence en écrivant que les combattants se sont rendus après la bataille. Dans le récit de l'imam Bukhari, il y avait une certaine concision et dans le récit du livre Al-Marazi, les événements rapportés n'ont pas non plus plus de lien clair. Cependant, il ressort globalement que l'affrontement qui a eu lieu lors de cette campagne de prédication était certainement lié à un conflit sanglant de l'époque pré-islamique. Et il est difficilement concevable que des prisonniers aient été tués uniquement en raison d'un désaccord concernant le mot sabana, surtout lorsque les Muhajirin et les Ansar étaient ouvertement contre la vie mentionnée ci-dessus. Khatabi déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Oh Allah, je me désolidarise de ce qu'a fait Khalid. » Il apparaît clairement de ses paroles qu'il a désapprouvé la hâte de Khalid dans sa décision et son manque d'enquête sur le terme sabana. Il était du devoir de Khalid de s'assurer complètement de ce que signifiait le terme sabana pour ceux qu'il avait utilisé. Selon la narration de l'imam Baqir, le saint prophète Mohammed lui a fait venir Ali et il lui a dit de se rendre vers ces gens et d'écraser sous ses pieds ses affaires de l'époque pré-islamique. Il s'est rendu là-bas et il a payé la compensation à chacun. Cette narration montre clairement qu'une vieille rancune de la haine et de l'animosité et un désir de vengeance étaient à l'origine de cet incident du combat. Le saint prophète avait dit « écrase les affaires du passé ». Ils savaient qu'il y avait une rancune ancienne dans leur cœur et c'était cette raison qui avait mené au meurtre. Lorsque le saint prophète envoyait une expédition, il leur donnait toujours cette instruction « ne pas se hâter de combattre, il fallait agir lentement et avec douceur. Et avant d'entrer en confrontation, il fallait inviter les gens vers l'islam. Les règles de l'islam devaient être expliquées clairement afin que l'argument soit complet. Et là où l'appel à la prière était entendu, il ne fallait pas lancer d'attaque. Dans l'incident mentionné ci-dessus, c'était justement le clan des Banu Jazima qui avait envoyé le message qu'ils acceptaient l'islam et cette expédition a été envoyée avec l'instruction explicite qu'il s'agissait d'une invitation à l'islam et non d'un combat. Ainsi, dans Tabaqat ibn Sa'd, il est rapporté que lorsque Khalid bin Walid est arrivé chez les Banu Jazima, il leur a demandé qui ils étaient. Ils ont répondu que « nous sommes musulmans, nous prions et nous croyons en la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons construit des mosquées dans nos cours et nous y lançons des appels à la prière. » Khalid leur a demandé « eh bien pourquoi ces armes ?» Ils ont répondu qu'il y a de l'inimitié entre nous et un autre peuple arabe et nous craignons que vous ne soyez de ceux-là. Suite à l'explication sumentionnée, le combat contre eux n'était en aucun cas justifié. Il semble que durant leur séjour aux alentours de Yalamlam, une étincelle d'ancienne hostilité s'est rallumée menant à une confrontation avec une des parties. Suite à cela, même après que les guerriers aient professé l'islam en prononçant Sabana, leur vie n'a pas été épargnée et Khalid bin Walid, en tant que chef de l'armée, a été blâmé. Ibn Hisham a également mentionné le désaccord et la dispute entre Khalid et Abdurrahman bin Auf, altercation qui a eu lieu lors de cette occasion. Abdurrahman bin Auf lui a dit « Tu as agi selon la pratique de l'ignorance en islam ». Khalid a répondu « En disant cela, tu as pris la vengeance de ton père ». Abdurrahman, quant à lui, a répondu « Ce n'est pas exact, car je me suis déjà vengé en tuant l'assassin de mon père. Mais toi, tu as pris la vengeance de ton oncle, Faqih bin Mughira. » Ainsi donc, leur dispute les a aigris l'un envers l'autre, au point que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en a été informé. Par la suite, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a dit à Khalid « N'aie pas une telle opinion à propos de mes compagnons, par Dieu, même si tu possédais de l'or de la taille du mont Uhud. » En effet, Abdurrahman faisait partie de ses premiers compagnons, et le saint prophète a dit à Khalid que même si tu possédais l'or de la taille du mont Uhud et que tu le dépensais dans le chemin d'Allah, tu n'atteindras pas le rang de l'un de mes compagnons, rang qu'il obtienne matin et soir grâce à l'évocation d'Allah. Dans la biographie d'Ibn Hisham, il y a aussi ce récit d'Ibn Ishaq qui mentionne que Faqih bin Mughira Marzoumi, Auf bin Abd Auf Zuhri et Affan bin Abi Lahs se sont rendus au Yémen à des fins commerciales et à leur retour, ils ont rapporté les biens d'une personne de la tribu des Juzima, une personne qui était décédée au Yémen afin de les remettre à ses héritiers. Un homme de la tribu de Juzima, Khalid bin Hisham, les a rencontrés en cours de route et lorsqu'il a appris à propos de la mort de cette personne, il a déclaré qu'il était en droit de réclamer cet argent. Ils ont refusé de lui donner cette somme. Cela a provoqué une dispute entre eux et Auf bin Auf et Faqih bin Mughira ont été tués dans la bataille. Affan bin al-As et son fils Ousmane se sont échappés. Ils ont pris les biens de Faqih bin Mughira et de Auf bin Auf. Abdurrahman bin Auf a profité de l'occasion pour tuer Khalid bin Hisham, vengeant ainsi son père Auf. Les Qurayshites étaient furieux de cet incident et ils ont voulu venger leur mort et leurs pertes financières en attaquant la tribu des Banu Juzima. Mais les Banu Juzima ont déclaré que le meurtre de leur homme était un incident isolé, sans intention de leur part et qu'ils n'en avaient pas connaissance. Nous paierons le prix du sang des victimes et les dommages financiers. Les Qurayshites ont accepté leurs excuses et leurs propositions. Ceci est rapporté de Nasira ibn Hisham. En tout cas, ce sont là des événements qui constituent le contexte de certains inimitiés et des raisons derrière cette hostilité. Cet événement est le contexte qui a fait de Khalid bin Walid une cible de critique, et c'est pour cette raison que les compagnons n'étaient pas satisfaits de la décision de Khalid. Quoi qu'il en soit, aucune excuse ne peut être invoquée en faveur de Khalid, car il a été envoyé uniquement dans le but d'inviter les gens à l'islam, et cela n'autorisait aucune forme de contrainte. La majorité des compagnons lui avaient donné le bon conseil, mais il ne les a pas acceptés, ce qui a permis aux Banu Sulaym de tuer leurs prisonniers durant la nuit. Dans une narration d'Ibn Ishaq, on rapporte l'excuse de Khalid bin Walid, disant qu'il avait combattu les gens sur le conseil d'Abdullah bin Hudhafa Sahmi, voyant leur refus d'embrasser l'islam. Ibn Ishaq s'exprime ainsi, certains excusant Khalid pour ses meurtres affirment qu'Abdullah bin Hudhafa Sahmi lui avait dit que le saint prophète Mohammed bin Sassoui avait ordonné de tuer ces gens s'ils refusaient d'embrasser l'islam. Mais cette excuse n'est pas valable car Khalid était le chef et non Abdullah bin Hudhafa Sahmi. Que l'erreur ait été commise intentionnellement ou par interprétation, le chef de l'armée en était responsable, surtout quand le saint prophète Mohammed bin Sassoui, après enquête, a exprimé une vive colère contre Khalid et lorsqu'il a annoncé sa désapprobation. Quoi qu'il en soit, nous devons accepter la décision du saint prophète Mohammed bin Sassoui et cet événement n'était pas anodin au point qu'après une décision prophétique, on cherche des excuses pour savoir si Khalid avait raison ou tort. Le saint prophète Mohammed bin Sassoui a dit « Tu as commis une erreur » et il a exprimé sa désapprobation et cela nous suffit. Quoi qu'il en soit, chercher des excuses porterait atteinte à l'enseignement fondamental de l'islam concernant la liberté religieuse. Le saint prophète Mohammed bin Sassoui n'a autorisé la guerre qu'avec ceux qui se battaient et il a ordonné la douceur dans la diffusion du message de l'islam. Après la conquête de la Mecque, le saint prophète a envoyé de nombreuses missions auprès des tribus arabes dans le but de les inviter à l'islam. Et il a donné des instructions claires aux chefs de ces délégations, notamment qu'ils devaient éviter les combats. Il est clairement stipulé dans les livres sur les campagnes militaires et l'histoire que ces délégations ont été envoyées uniquement pour inviter les gens à l'islam. Les récits de la Sira ibn Hisham et des Tabaqat ibn Sa'd l'ont déjà mentionné. L'érudit Tabari a également expliqué cela en ces termes, notamment que le saint prophète bien soit lui a envoyé ses détachements autour de la Mecque afin qu'il détourne les gens de l'idolâtrie et afin qu'il les invite à adorer Allah le Très-Haut. Le saint prophète n'avait jamais ordonné à ses détachements de mener le combat. Quoi qu'il en soit, les mollahs extrémistes d'aujourd'hui utilisent ces faits comme preuve pour justifier le meurtre et le combat. Mais l'enseignement très clair du saint prophète, paix soit sur lui, est que l'on ne doit pas combattre celui qui ne combat pas, et que cela est un crime. Le récit sumentionné d'Imam Bukhari confirme également que Khalid bin Walid a été envoyé vers les Banu Juzima pour inviter les gens à l'islam. Il est dit « Fada'ahum ila l'islam » et conformément à cet ordre, il a invité ces gens à l'islam. Ils n'ont pas pu clairement déclarer que nous sommes devenus musulmans et pris de panique, ils ont dit tout simplement que nous avons changé de religion. Cette phrase ne concernait pas toute la tribu car la plupart d'entre eux s'étaient déjà convertis auparavant. Il n'y avait qu'une famille particulière qui craignait des représailles et qui s'est donc armée pour se battre. Voyant sa défaite dans la bataille, ils ont exprimé leur conversion à l'islam en disant « Sabahana ». Le récit de l'imam Bukhari est d'une concision extrême et il n'a accepté que les récits qui répondaient à ses critères d'authenticité. Hajdam avait conseillé à sa tribu de ne pas se rendre mais de résister. Cela montre aussi qu'il craignait des représailles suite à une effusion de sang antérieure. Dans le premier récit d'Ibn Ishaq, ces mots sont rapportés ainsi. « Ô Banu Jazima, rappelez-vous, c'est Khalid. » Après la reddition, il y aura emprisonnement, ensuite décapitation. Certaines personnes de sa tribu l'ont attrapé et lui ont dit qu'il voulait une effusion de sang, Les gens sont devenus musulmans, ils ont déposé les armes. La guerre est finie et il y a la paix. Les gens ont continué à le persuader et lui ont pris ses armes et sur l'ordre de Khalid, les autres ont également déposé leurs armes. Ceci est mentionné ainsi dans la Sira d'Ibn Hisham. Cette déclaration montre que les craintes de Rajdam n'étaient pas sans fondement. Il semble que les compagnons soient restés là un certain temps dans le but d'enseigner la religion islamique aux nouveaux convertis de la tribu. Ceci est clair grâce à ces paroles que l'on trouve dans le récit « Hatta idha kana yaman amra khalidan ». Ainsi donc, pendant son séjour, une situation désagréable s'est produite qui a entraîné une guerre avec les membres de la tribu. Certains ont été vaincus, ils ont été faits prisonniers, et lorsque les prisonniers ont été remis aux mains des combattants, il n'est pas improbable que certains aient saisi l'occasion pour assouvir une vieille rancune et qu'ils les aient tués. Ibn Hisham a également mentionné à ce sujet une interprétation du rêve du saint prophète Mohammed, peace be upon him, par Abu Bakr, rapporté par Ibrahim bin Ja'far Mahmoudi, que j'ai déjà évoqué précédemment. Notamment, le saint prophète a pris quelques bouchées d'un plat de dattes, de sattu et de ghee, un repas qui était délicieux, mais à la fin, une bouchée s'est coincée dans sa gorge et Ali l'a retirée avec sa main. Abu Bakr a interprété cela comme lié à une délégation de Tablir et l'a conseillé d'envoyer Ali pour réparer l'erreur de Khalid. Ce rêve montre également que l'incident concerne une partie limitée de la tribu Jazima et des prisonniers spécifiques. Ce n'est pas que tous les prisonniers ont été tués tout simplement pour avoir dit Sabana. En réalité, ces gens n'étaient pas entrés dans l'islam et la peur de la vengeance passée était si forte dans leur esprit qu'ils se sont battus pour se défendre. Ils craignaient que certains hommes des Banu Sulaym bin Mansour et de Mujrid bin Mouri, qui faisaient partie de l'armée de Khalid, ne se vengent. Ce sont donc les membres de la tribu Sulaym qui ont tué leurs prisonniers pendant la nuit pour se venger. Aucun des Muhajiroun ou des Ansar n'a tué ces prisonniers, mais ils les ont libérés, mettant en pratique les préceptes du saint prophète Mohammed et son bel exemple. Cette exégèse de Bukhari a également été rédigée par Hazrat Waliullah Shah Saheb. Et de plus, il a écrit cette note savante qui indique clairement que Khalid bin Walid n'avait aucune mauvaise intention. Il s'agissait en fait d'une erreur d'interprétation de sa part et d'une décision précipitée. Compte tenu de sa position de chef de l'armée, il était responsable de la situation qui a suivi. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui était en colère contre Khalid bin Walid et il a également exprimé son désaveu à Dieu. Et lorsque le saint prophète Mohammed lui a enquêté sur toute l'affaire, il a été prouvé que ces meurtres avaient été commis à la suite d'un malentendu. Et c'est pourquoi le saint prophète Mohammed a décidé de verser le prix du sang au lieu d'imposer la loi du talion. Après les requêtes et les excuses de Khalid bin Walid, le saint prophète Mohammed a non seulement pardonné à Khalid, ainsi donc il serait tout à fait erroné de dire qu'il a été puni, qu'il a été maudit et qu'il a eu beaucoup de colère à son encontre. Shah Saheb écrit que le saint prophète Mohammed a pardonné à Khalid. Et quelques jours après, il a nommé Khalid à la tête de l'avant-garde de l'armée préparée pour la bataille de Hunayn et l'a nommé commandant de l'unité de cavalerie. Si le mécontentement était si grand, il ne l'aurait pas nommé responsable d'une autre unité, mais le saint prophète Mohammed l'a nommé à la tête de cette unité. En outre de cela, on trouve mention de deux autres expéditions. Il y a l'expédition de Yalamlam, le saint prophète a envoyé une expédition de 200 hommes sous le commandement de Hisham bin As vers Yalamlam, qui est situé au sud-est de la Mecque, à deux nuits de distance entre la Mecque et Taïf. Il y a également l'expédition d'Urana. Il s'agit d'une vallée en face de Rafat. On rapporte que le saint prophète Bessosa lui a envoyé Khalid bin Saïd bin As à la tête d'une armée de 300 hommes dans cette direction. Quoi qu'il en soit, cette expédition a été mentionnée par Mohammed bin Omar al-Waqidi, mais aucun autre biographe renommé ne l'a relaté, ce qui soulève des doutes quant à son authenticité. Aucune autre information à ce sujet n'est disponible. Un biographe a cependant écrit que, à notre connaissance, aucun historien n'a mentionné les détails des opérations militaires menées par Khalid bin Sayyid bin al-As jusqu'à Urana. Il n'existe cependant aucune divergence sur le fait qu'il ait été envoyé vers la tribu de Huzail, tribu qui résidait à Urana. Quoi qu'il en soit, cela nous permet de bien comprendre l'attitude du saint prophète Mohammed lui, le saint prophète qui n'a jamais été sévère, et cela réfute l'accusation portée par les ennemis de l'islam, selon laquelle le saint prophète aurait ordonné des massacres lors des batailles. Au contraire, il a exprimé un grand mécontentement lorsque, même par erreur, quelque chose de mal s'est produit. Inch'Allah, j'évoquerai les autres expéditions militaires du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.